absente. Eh oui, Lucille.
Ensuite, c'est à qui? On dit le nom de la copine. Adeline. Viens ici.
Léa.
La 4.
Arie, Ensuite, c'est Mila. Maintenant, mesdemoiselles, dites-moi combien vous êtes, s'il vous plaît, pour le cours de danse.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bonjour, je m'appelle Marion et je travaille dans une des institutions chorégraphiques les plus importantes de France, la Maison de la Danse de Lyon. Ça fait quelques années maintenant que j'évolue dans ce milieu et j'y suis entrée non pas en tant que danseuse mais en tant que spectatrice passionnée d'histoire de la danse. Le tout premier spectacle qui m'a troublée, dans le bon sens, c'était une pièce de Maggie Marin au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Puis il y a eu le travail de Caroline Carlson, Mathilde Monnier, Anne-Thérèse Kersmaker, Sacha Waltz, Pina Bausch. En cours, à la fac, j'ai étudié Trisha Brown, Marie Wigman, Anna Alprin, Isadora Duncan, Loy Fuller, Odile Duboc. Toutes ces femmes qui ont écrit l'histoire de la danse hier et qui l'écrivent aujourd'hui. Bien sûr, parmi toutes mes références, il y a aussi des hommes, artistes, danseurs, chorégraphes, mais j'ai l'impression que dans mon imaginaire, ils sont moins présents. Quelques années plus tard, j'évolue dans ce milieu, au service des artistes et des publics. Je conçois des projets de médiation et je crée des podcasts. Et c'est en réalisant, en 2020, Depuis je danse, une série d'interviews d'artistes en 8 épisodes, que j'ai quelques difficultés pour trouver des femmes à inviter. C'est à ce moment que j'ai un déclic. Je me mets à éplucher les brochures de différentes institutions, à lire les petites lignes des distributions. Des hommes, encore des hommes, beaucoup plus d'hommes, une majorité d'hommes. Avant ça, je ne m'en étais jamais aperçue. Dans un art souvent qualifié de féminin, d'ultra-féminisé, qui comptait en 2023 85% de femmes dans ses effectifs de cours de danse, je n'avais jamais soupçonné un tel écart. Mais alors, où sont les femmes? Celles de la nouvelle génération, que font-elles? Sont-elles réellement moins présentes, moins représentées ou moins visibles en tant que professionnelles? Je me doute bien qu'il n'existe pas une seule réponse, mais plusieurs, en fonction des personnes et des situations. Alors, je décide de mener l'enquête en allant à la rencontre d'artistes, d'hommes et de femmes, des chercheuses, des directeurs et directrices de théâtre, des personnes qui font des choix en programmant. Je n'ai pas pu tendre mon micro à l'ensemble du monde de la danse. La série en 6 épisodes que vous vous apprêtez à écouter ne prétend pas donner une vision exhaustive de ce sujet. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont livré leurs ressentis, leurs expériences vécues, leurs anecdotes, des trajectoires parfois fulgurantes, parfois brisées. Vous entendrez des récits singuliers teintés de colère, d'interrogation, de passion et d'espoir. Non, ma fille, vous n'irez pas danser, est une enquête sensible, chorégraphique, sonore et documentaire que je réalise en baladant mon enregistreur au fil de mes rencontres depuis 2 ans. Dans ce premier épisode, Diane et Yann, deux artistes, nous parlent de violences subies et de confiance nécessaire.
Du coup, moi, je suis la troisième de ma famille. On est 4 enfants. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai vécu une enfance assez normale, on va dire. Et très, très tôt, j'ai voulu danser. C'est-à-dire que mes parents, ma famille n'allaient pas forcément beaucoup voir de spectacles ou quoi que ce soit. Mais il y avait cette envie de danse, c'est-à-dire que je pense que la première chose que j'ai demandé quand j'étais enfant, quand j'ai pu parler, etc., c'était de danser. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette fascination. J'ai dû voir quelque chose, ou j'en sais rien, mais particulièrement la danse classique. C'est-à-dire que après avoir berné ma mère pendant je sais pas, j'ai l'impression que c'était une éternité. Elle m'a mis à un cours de danse dans le petit village où je vivais. Et là-bas, il y avait des cours de jazz. Donc, je faisais du moderne jazz dans ce petit village. Et puis, en fait, c'était pas suffisant. Il y avait des barres, il y avait des miroirs. Et directement, j'allais me mettre à la barre. J'essayais d'imiter la danse classique et c'était vraiment en fait ce qui me passionnait. Genre, j'écoutais de la musique classique étant petite, enfin c'était vraiment genre passionnée quoi, mais j'ai jamais vraiment su pourquoi. Et à un certain moment en fait j'avais ma prof de danse qui est allée voir ma mère et qui lui a dit écoutez, Enfin, écoute, ta fille, elle rêve de danse classique, en fait. Il faut essayer de la mettre quelque part. Pourquoi t'essayerais pas de l'inscrire au Conservatoire de Lyon, lui faire passer les auditions? Peut-être qu'elle est jeune, j'avais 8 ans à l'époque. Tu sais pas, essaye. Et puis, comme ça, au moins, elle aura au moins l'expérience d'une audition. Ça peut être chouette. Et du coup, à ce moment-là, je passe l'audition, j'étais hyper heureuse. Je me souviens, j'ai encore les images de cet énorme bâtiment où on descendait dans le sous-sol, où il y avait ces énormes studios avec tous ces gens qui portaient des justes corps et des collants. Et j'étais là, mais waouh, c'est magnifique. Genre, j'adorais toute cette atmosphère-là qui était un petit peu... qui était méga nouvelle et puis très... rêve de petite fille, en fait. C'est juste corps collant avec les demi-pointes que je connaissais même pas encore. Enfin, c'était fantastique, quoi. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de tout ça, mais je me souviens qu'à un moment, il y a la prof de danse qui arrive et qui... Enfin, celle qui nous donnait l'audition, qui arrive et qui me demande « Ça fait combien de temps, Diane, que tu fais de la danse classique ?» Et moi, j'étais hyper honteuse de jamais avoir fait de danse classique. Donc j'avais dit « 3 ans, à mon avis. Ouais, 3 ans que je fais de la danse classique, Amy. » Du coup, bon, là, l'audition se finit. J'ai été prise à l'audition. J'étais super heureuse. Puis j'étais rentrée en CE2 en horaire traditionnel. Donc, la danse après les cours. Et au premier trimestre, la prof de danse a un rendez-vous avec ma mère et lui dit « Écoutez, c'est bizarre, Diane, elle a vraiment des manières, etc. Je sais que ça fait 3 ans qu'elle fait de la danse classique, mais elle a vraiment des lacunes. » Et ma mère la regarde et lui dit « Mais elle a jamais fait de danse classique, en fait. » Elle était là. Mais enfin, elle m'a dit que ça faisait 3 ans qu'elle faisait déjà de la danse classique. Non, non, pas du tout. Et en fait, je pense que, je sais pas, j'avais trop peur d'avoir honte de jamais avoir fait ça, mais bon. Bref, il en est que l'année d'après, en CM1, CM2, je rentre en horaire aménagé. Donc, c'est-à-dire que j'ai des cours à l'école le matin et l'après-midi au conservatoire en danse classique et en contemporain, d'ailleurs. À ce moment-là. Donc les deux, on a le même... Enfin, on a à peu près autant de classiques que de contemporains. Puis j'adorais ça, je baignais dans le bonheur, quoi. J'en redemandais, enfin, vraiment, je vibrais pour la danse, quoi. Puis ça m'a beaucoup aidée dans tout, en fait, dans ma scolarité. À partir de ce moment-là, il y avait les choses qui allaient de mieux en mieux, parce que je suis dyslexique et, en fait, ça a clairement... aider à la progression dans tout. Donc en fait, à partir du moment où j'ai commencé à danser et à faire ce que je voulais, genre, ça a été un épanouissement beau, en fait. Et c'était très, très beau parce que j'étais petite aussi et que je m'en rendais pas forcément compte, mais que vraiment, c'était trop chouette. Donc je passe toute ma scolarité, en fait, à faire de la danse classique. Je faisais un peu de contemporain, un peu de jazz, un peu d'éducation musicale, histoire de la danse, etc. Mais c'est ça. Et puis, donc, à la fin de mon lycée, bah, le prochain step, c'est les écoles supérieures, ou en tout cas une école pour pouvoir se professionnaliser en danse. Puis moi, j'avais vraiment envie de continuer dans la danse classique. Enfin, c'est ce qui m'a animée depuis que j'étais toute petite, donc il n'y avait aucun doute pour moi que c'était la danse classique, quoi. Et après la terminale, en fait, je me suis un peu penchée sur où est-ce que j'avais envie d'aller, parce que c'est vrai que à partir du moment où t'es plus au lycée, il faut quand même choisir là où tu veux aller. Et puis, en fait, il n'y a pas 1000 solutions. Donc, il y avait vraiment le Conservatoire supérieur de Lyon qui me faisait très envie. Et il y avait l'école de Maurice Béjart à Lausanne, qui a été un chorégraphe incroyable et enfin... que j'appréciais énormément. Il y avait aussi tout ce truc où c'était multidisciplinaire à Rudra, dans cette école. Et du coup, j'ai auditionné là-bas. C'est une audition qui est très, 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 très intense. C'est-à-dire que c'est la Suisse. Donc, il y a tout le voyage pour aller en Suisse. J'étais jamais allée en Suisse de ma vie. C'est magnifique. C'est incroyablement magnifique. C'est à côté des montagnes, à côté du lac. C'est pas du tout comme en France. Du coup, c'était un autre pays. Et puis, peut-être l'optique de vivre dans un autre pays, c'était fantastique, quoi. J'avais 18 ans, je rêvais de faire plein de trucs, et là, de me projeter potentiellement à Lausanne, c'était ouf. Et j'arrive dans ce bâtiment, ce grand bâtiment bleu foncé, écrit Béjart, comme ça, en gros. J'étais là, waouh, trop bien. Et puis, donc, j'ouvre, c'est un couloir immense, où il y a des vitrines sur le côté, où en fait c'est la cantine, où il y avait des milliers de parents qui attendaient déjà leur fille ou leur fils coiffés, habillés, etc. Enfin, c'est une ambiance très très intense. Et sur la gauche du couloir, il y avait tous les noms des gens qui étaient là. Et en fait, j'ai regardé, c'est la première chose que... Il y avait une file d'attente, donc c'est effectivement la première chose que j'ai dû regarder. Et il y avait, je sais pas, 300 personnes, des gens qui venaient de partout, mais de partout. Il y avait des gens qui venaient, je sais plus, de Colombie, de Chine, d'Espagne, d'Italie, de France. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est impossible que tu sois prise, quoi. J'ai regardé tous ces numéros et j'étais là, mais c'est fou, il y avait nos tailles, enfin, c'était dingue. Puis tu rentres dans le bureau qui est juste à côté du directeur, tu prends ton numéro, le fameux numéro pour l'audition. Puis, bah ouais, tu vas te préparer et tu sais que c'est bientôt ton tour ou tu vas attendre genre 3 heures pour avoir ton premier cours devant les jurys. Et du coup, vient l'heure de l'audition et puis tout ce stress où à la fin du cours, ils te mettent en ligne, puis ils te demandent d'approcher, puis de te reculer, et puis ah bon, bah les gens qui ont avancé, vous pouvez sortir de la place, merci beaucoup, au revoir. Tout ce nombre de tours que tu fais où tu te dis mais jamais je vais pouvoir y arriver, et en fait au final arrive le dernier tour et ils font avancer je crois 4 filles qui demandent ils leur demandent de sortir et puis ils nous regardent et ils nous disent bah bienvenue à vous. Et là c'est une émotion mais folle, quoi. C'était, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'étais tellement sûre de pas être prise que j'étais là, mais c'est incroyable, quoi. C'est fantastique. Et on se retrouve avec un groupe de, du coup, 23 personnes, avec à peu près 13 filles et 10 garçons. Sachant que, au début de l'audition, on était beaucoup plus de filles que de garçons. C'est-à-dire que sur 300, il y avait peut-être, je sais pas, une centaine de garçons. Pour 200 filles, c'était assez absurde d'ailleurs que on soit autant de filles comparé à si peu de garçons et qu'au final on se retrouve avec presque un 50-50 de filles et de garçons pris à l'audition. Pendant l'année, du coup pendant ces 2 ans de scolarité, en fait, il y a eu énormément de gens qui sont partis parce que c'est une école qui est très dure. Et effectivement, on travaille 6 jours sur 7, de 8h à 6h. C'est un truc très intense. Et il y a plusieurs personnes qui partent et il y a plusieurs personnes qui sont virées à la fin de la première année. Et j'ai l'impression que pendant toute ma scolarité, j'ai vu que dans les auditions, que ce soit pour les écoles ou pour le travail, c'était plus facile pour les hommes parce que, premièrement, il y en avait moins. Et deuxièmement, il y a toujours besoin de garçons dans les compagnies. Et voilà, ouais. En fait, c'est effectivement un monde, la danse, surtout dans le milieu classique, qui est très dur, Il y a énormément de compétition. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de compétition chez les femmes. Parce que, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Et il y a énormément de candidates. Et toutes mes amies qui sont sorties de Rue de Rabéjar, c'était des danseuses, mais incroyables. Mais il y en a énormément qui ont été brisées, en fait, par ce truc de compétition, je dois avoir ta place, ou en tout cas qui n'ont pas trouvé leur place. Mais cette histoire de compétition, de jalousie, on peut lui donner énormément d'aspects et puis de noms, mais il y a une espèce de concurrence entre les filles où on essaye... Enfin, je sais pas, où il y a un truc où... Où si t'as une meilleure note, si t'as une moins bonne note, tu vas être jugée. Il y a un truc de compétition, un truc qui est hyper malsain, qui se met en place. Ça dépend les groupes, encore une fois. Mais où, en fait, tes potes, c'est tes potes, mais il y a quand même un truc où si t'as une meilleure note qu'elle en danse, c'est un peu compliqué. Et en fait, du coup, t'es toujours en train de surfer entre ce truc de « Ah, il faut que je sois bien, mais pas trop, parce que sinon, mes amies, elles vont plus trop m'aimer. » Enfin, il y a un truc hyper bizarre où t'es confronté à essayer de réaliser ton rêve à fond, parce que t'as envie d'y arriver dans la danse, et à la fois, t'as peur de te faire juger, parce que t'aimes ça, en fait. Parce que t'as envie de danser, et qu'il y en a d'autres qui ont peut-être pas forcément cette envie-là, ou pas de la même façon, et qui, du coup, vont te juger pour être comme ça ou comme ci, puis il y a toute cette histoire de corps aussi qui rentre en jeu, énormément. C'est-à-dire, ah, waouh, t'as vu, Diane, elle a pris un peu de poids, non ? Ah ouais, c'est pas cool, hein. Franchement, enfin, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Ou des trucs comme ça, où t'es là, mais en fait, c'est mon corps, c'est déjà compliqué de me voir tous les jours dans un miroir, avoir de la poitrine et des fesses, parce qu'effectivement, à un certain âge, bah oui, on a de la poitrine et des fesses. Et il y a tout ce truc de donc, qui est la meilleure, qui a le meilleur physique, qui a le machin, qui a le truc, qui fait que la confiance, en fait, elle fait genre un espèce de haut et bas absolument tout le temps. Et ça, c'est hyper compliqué de le gérer. Et j'ai l'impression que, enfin, il n'y a pas ce truc-là pour les mecs.
Alors, je suis Yann Martens, chorégraphe flamand de Belgique. J'ai 38 ans. J'ai un frère et une sœur. Ma mère ne travaillait pas, elle était à la maison. Et mon père, il travaillait pour Exxon, SO. Je ne suis pas du tout né dans une famille artistique. Mon frère a étudié comme boulanger et ma sœur comme infirmière. Alors, il n'y avait pas de culture dans la maison. Mais quand j'avais 15 ans, j'avais une amie qui était dans une famille très artistique avec sa mère et ses deux sœurs. Et là, j'ai vu mes premiers films art house, on peut dire. Je sais pas comment dire en français, art house. Un cinéma européen, beaucoup plus expérimental. Il y avait un piano dans la maison, elle jouait le piano. Et c'est à cause d'elle que j'ai vraiment découvert le monde de l'art. Et que je suis aussi changé d'école quand j'avais 16 ans. Et là, dans cette école, on pouvait choisir un... Alors, il y avait bien sûr la mathématique, français, anglais, mais il y avait aussi un choix qu'on pouvait faire. C'était l'allemand, ou c'était cinéma, ou c'était ça s'appelait expression... corporelle. Et je me suis mis dedans. C'était très old school. Mais en même temps, j'aimais beaucoup. Et aussi parce que j'allais à l'école à Anvers et pour l'école, on devait voir des spectacles. On devait voir 5 spectacles. On pouvait choisir les spectacles à voir. Mais une devait être sans texte. Alors, de la danse ou du performance. Et c'est ça que j'ai vu mon premier spectacle de danse contemporaine. C'était un spectacle de Yann Fabre. Qui m'a, dans ce temps, complètement bouleversé. Parce que j'avais 17 ans, je suis homosexuel, mais j'avais pas encore fait mon coming out. J'étais pas bien dans mon corps. Et là, sur scène, il y avait, je me souviens pas, mais je pense une vingtaine de personnes avec une douche sur scène. Ils étaient nus, ils avaient du ketchup, du chocolat. C'était très, très expressif. Et des corps qui étaient vraiment là, des gens qui se sentaient bien dans leur peau. C'est ça que je sentais dans ce moment-là. Et ça m'a bouleversé et ça m'a fait rechercher c'est quoi cette forme de, d'art que je pouvais pas expliquer, c'est quoi le nom, ok, danse contemporaine, ok, qu'est-ce que ça veut dire. Je parle maintenant de l'année 2001. Alors c'était le début de l'internet, le début des premiers petits vidéos sur YouTube. Et très vite, j'ai vu le travail d'Andreas Geersmacher qui me touchait très très profondément, mais d'une façon totalement différente que Fabre m'avait touché. Parce que avec Fabre, je savais pourquoi ça me touchait. Avec Andreas, je ne comprenais pas. Parce que c'était très formel, c'était une mathématique, c'était dans une répétition. Et je pouvais pas comprendre comment la mathématique pouvait m'émouvoir. Mais au fur et à mesure, maintenant, je comprends pourquoi. Et ça a été le début, Fabre et de Geersmacher. Ce paysage belge, je suis commencé à danser, à rechercher. D'abord, je suis allé à l'université, mais j'ai quitté l'université après une année parce que c'était pas pour moi étudier avec un livre et tout ça. Et j'ai fait une audition à une école de danse aux Pays-Bas parce qu'il y avait une autre amie qui était là. Mais je dis, je danse pour un an, j'ai pas la possibilité. Mais elle m'a dit, ah, mais tu dois le faire, hein. Pour des garçons, c'est beaucoup plus facile. Et en effet, c'est le cas. On était là à Tilbourg, je pense, 120 personnes, peut-être 8 garçons, 10 garçons. Je pense que 4 des garçons ont été pris, 110 filles, je pense que 20 étaient choisies. Alors là, tu vois immédiatement de ce qu'on va parler plus tard, je pense. Mais oui, c'est de cette façon que j'ai plongé dedans, parce que j'avais beaucoup à rattraper. Et ça devient immédiatement très clair que le niveau technique des garçons est beaucoup plus faible que le niveau de technique des filles. Oui, je pense que comme fille, quand tu n'as pas commencé à 6, 8 ou 10 ans, c'est trop tard, alors que presque tous les garçons ont que commencé à 16, 17 ans. Souvent, les filles commencent très tôt, ont des expériences pas bien, parce que parfois, ou très souvent, je ne sais pas comment le dire, mais l'éducation de danse est très dure et très rigide, n'est pas bien pour votre développement psychologique ou social.
On déplace les barres, mademoiselle.
Après Lausanne, après cette école de rue de Rabéjar, j'ai des petits doutes au niveau de la danse classique. J'ai même des gros doutes au niveau de la danse classique. Parce que pendant la dernière année d'école à Rudra, je passe des auditions en danse classique. Et toutes les auditions que j'ai faites, c'est-à-dire je pense que j'en ai fait 5, où j'ai été acceptée, parce qu'il y a ce processus d'envoyer un mail, d'envoyer ton CV, d'envoyer une vidéo, puis ensuite ils te répondent, de savoir, enfin, s'ils sont OK que tu viennes à l'audition pour te présenter, etc. Et donc j'en ai fait peut-être 5, et sur les 5, ça a été une catastrophe à chaque fois. C'est-à-dire que c'était des trucs où ça m'a remis... Enfin, ça m'a... C'est pas que ça m'a dégoûté, mais c'est que c'était tellement dur de savoir qui j'étais et comment je me présentais face aux personnes qui m'invitaient aux auditions, que je me perdais, en fait. Et puis aussi, j'étais jeune, enfin, c'est-à-dire qu'à la fin des études... Enfin, ça dépend dans quelle école on est, mais je trouve que j'avais 20 ans quand j'ai commencé à passer des auditions, et à 20 ans, en fait, je savais pas qui j'étais. Donc en fait, le fait de me retrouver dans des auditions où il y avait déjà des gens qui savaient qui ils étaient, parce qu'il y a un peu plus de maturité, bah ça m'a frustrée. Puis du coup, je me suis dit, ok, non, c'est pas la danse classique, je me suis trompée. Puis pendant Rudra, on a eu un enseignement où on avait aussi de la danse moderne qui s'appelle Martha Graham. Et ça, j'aime vraiment beaucoup aimer. C'était une technique qui me convenait beaucoup mieux. Enfin, où je m'épanouissais encore plus qu'en classique. Donc, c'est dire. Ouais. Et j'avais vachement envie d'aller... c'était aux États-Unis, du coup, pour découvrir un petit peu plus de la technique. Et donc, j'ai passé... Enfin... J'ai eu les contacts de la compagnie et j'ai vu qu'ils passaient en Espagne, à Madrid, dans un théâtre, je me rappelle plus lequel. Bref, Et je connaissais une danseuse, enfin je connaissais pas une danseuse, j'avais une connaissance dans la compagnie qui m'a dit « Ok, bah viens, viens faire un cours avec nous, comme ça la maître de ballet, elle te voit, et puis on verra ce qui se passe. » Donc, j'arrive en Espagne, j'arrive au théâtre pour prendre une classe du coup avec, avec la Graham Company, et j'avoue que j'étais complètement perdue, mais j'étais hyper heureuse. Encore une fois, la classe, ça se passe super bien. Enfin, super bien. Je connaissais la moitié de ce qu'ils faisaient, mais j'étais trop heureuse. Et je parlais pas un mot d'anglais. Donc, la maître de ballet qui vient de New York commence à me parler. Je comprends un mot sur deux. Et en fait, elle me disait que je pouvais venir au summer intensive qui se passait quelques mois plus tard pour que je puisse voir un peu comment ça se passait à l'école. Parce que aux États-Unis, à New York, il y a une école, donc la Martha Graham School, et une junior compagnie et la compagnie. Et donc, me voilà partie pour normalement 2 ans de junior compagnie aux États-Unis, à New York. Ça a été une expérience hyper intense. On était dans la junior compagnie, on était une petite dizaine. Il y avait 4 garçons, 6 filles. Et c'était hyper enrichissant, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même pression et la même compétition que dans la danse classique. Et là, encore pire, parce que c'était rempli de femmes. Mais rempli de femmes qui étaient tellement dans le jugement absolument tout le temps que ça en devenait oppressant. Enfin, moi, j'ai pas très bien vécu cette expérience-là parce qu'il y avait ce truc de... Bah, il y avait pas de bienveillance, en fait. Il y avait un truc où il fallait travailler dur pour y arriver. Et en fait, j'en avais juste marre d'essayer de prouver que je pouvais le faire alors que... Enfin, cette compétition-là, elle m'intéressait plus et j'arrivais pas à faire ma place là-dedans parce que je suis pas compétitive. Enfin, j'aime pas ça. Et là, le fait que... Je sais pas, il y avait un truc où il fallait prouver à ces femmes si fortes que t'étais aussi forte qu'elles. C'était fatigant, en fait. Moi, ça m'a vidée de devoir faire ça. Et du coup, je suis rentrée en France après 1 an donc, de junior compagnie. Donc, j'ai décidé d'arrêter la danse à ce moment-là puis de rentrer en France.
On pense toujours que la danse, c'est de l'art contemporain, qu'on est progressif. Mais quand on creuse un peu plus profond, on voit qu'il y a les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, les mêmes difficultés que dans tout secteur. Un grand problème de manipulation, de pouvoir, d'abus de pouvoir dans le paysage de danse, mais dans le paysage d'éducation aussi. Et je pense que beaucoup de filles ou de femmes sont déjà très fatiguées quand elles ont 20 ans. Et ça, c'est un très grand problème. Et là, on doit vraiment... parfois, je suis surpris de mes propres mots, mais la zéro tolérance sur un abus de pouvoir, on doit vraiment nettoyer. C'est des mots très agressifs hein, qu'on utilise dans les autres termes. Mais là, je pense qu'on doit vraiment nettoyer les éducations des gens malsains, abusifs, pour qu'on puisse s'améliorer, grandir dans une atmosphère de convivialité, de douceur. Je pense qu'un grand chose de ça est du problème que vous dites des filles qui s'arrêtent, c'est qu'ils ont vécu des traumatismes. J'avais rencontré il y a 2 mois une danseuse avec qui j'ai étudié à Tilbourg, qui a passé 2 années dans la psychiatrie et qui me racontait qu'elle a vécu quelque chose pendant sa éducation à Tilbourg avec un de nos profs. Et j'étais complètement surpris. Rien vu, rien aperçu. Elle a écrit à l'école, mais il est encore là. Je pense souvent à la parité. Comment soutenir ça? Je fais mon mieux et je ne sais pas si c'est assez. Ça, je me demande parfois. Alors, quand j'étais invité par l'Opéra Ballet de Flandre, Une des choses que je fais quand je reçois une invitation, je regarde dans leur programme, est-ce qu'il y a une parité entre les chorégraphes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Et je voyais dans l'Opéra Ballet de Flandre que c'était pas le cas. Et je viens de dire que je fais mon mieux, mais peut-être pas assez. C'est que je parle avec eux et je leur dis que je trouve pas bien que c'est ça. Et même maintenant, je partage un soirée avec un autre homme. Et je trouve ça pas bien. Je dis ça et j'espère qu'ils vont changer parce que je deviens artiste associé avec eux. Et pour moi, c'est aussi important. Ça veut dire quoi, artiste associé? Je pense que je veux utiliser le pouvoir que j'ai pour changer des choses.
Si je pense depuis le début de mon éducation en danse, à mon avis, plus de 80% des gens avec qui j'ai passé mon éducation en danse, c'était des filles, c'était pas des garçons. Il y avait peut-être 20% de personnes qui étaient des garçons. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent, mes amis qui travaillent, c'est une majorité de garçons et une minorité de filles. Et effectivement, énormément de garçons qui commencent au final assez tard et qui s'introduisent assez facilement dans ce monde artistique, alors que y a des filles qui sont obligées d'abandonner parce que c'est trop compliqué. Et il y a c'est assez étrange de voir ce truc de nous on galère à arriver puis à faire des auditions, à être prise ou à trouver des projets, etc. Puis il y a des garçons qui commencent genre il y a 4 ans la danse et puis ils ont directement du travail, où ils commencent leur projet et puis ça marche et c'est très cool pour eux. Mais c'est vrai j'ai l'impression que c'est énormément basé, en tout cas pour ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est énormément basé sur la confiance. Qu'il y a un truc où tant que t'as confiance en toi et puis confiance en ton projet, ça peut marcher, mais qu'il y a vraiment une différence d'estime de soi entre les filles et les garçons, en tout cas pour les gens que j'ai fréquentés. Et que, les gens qui ont un peu des faiblesses au niveau de leur confiance en soi, forcément ça va être difficile pour eux de trouver du travail ou alors de concrétiser un projet artistique. Et j'ai l'impression que les garçons, ils ont cette faculté à ne absolument pas douter. Peut-être pas, mais en tout cas, où ils se posent beaucoup moins de questions que des filles qui ont peut-être été beaucoup jugées pendant leur apprentissage et que du coup, on leur demande beaucoup plus de devoir être, en fait.
Une autre pensée totalement différente, mais peut-être pas totalement différente, c'est que comme homosexuel, je suis aussi dirigé vers cette profession parce que je sentais que c'était un endroit safe. Quand j'avais 18 ans, c'est aussi ça qui m'a dirigé vers ça parce que j'étais pas... j'étais pas OK avec moi-même. Parfois, tu entres dans des environnements hostiles et parfois on a assez de se lutter, même si on doit lutter. Et je pense que là aussi, c'est un des endroits que les homosexuels sont très sécures. Et en même temps, ça donne parfois aussi le danger du « on prend soin de nous-mêmes ». Je connais beaucoup d'homosexuels qui sont très féministes et en même temps, il y a aussi des homosexuels qui sont pas féministes du tout. Et parfois, je me demande si la... Mais c'est vraiment une pensée. C'est pas que je suis sûr de ça, mais je demande aussi, oui, avec tous ces homosexuels dans le paysage, est-ce qu'on prend pas trop d'espace? En savant que dans beaucoup d'autres secteurs, on peut pas prendre de l'espace. Alors on doit, comme des gens cuirs, doivent trouver leur espace secure pour nous aussi. Alors c'est une pensée complexe et difficile, mais qui me perturbe et que je questionne.
Le milieu de la danse est une safe place, un endroit sûr pour les personnes homosexuelles et pour les minorités de genre. Mais est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire des danses? On entend souvent dire « la danse, c'est pour les filles ». Un homme qui danse, il est efféminé. Mais elle vient d'où cette idée? Ça remonte à quand? Dans le deuxième épisode de cette série « Non ma fille, vous n'irez pas danser », je continue mon enquête en partant à la rencontre d'une chercheuse qui s'intéresse à l'origine des genres dans la danse et qui va nous expliquer pourquoi la danse n'est pas un truc de fille. Non ma fille, vous n'irez pas danser est une série en 6 épisodes produite par la Maison de la Danse de Lyon, imaginée et écrite par Marion Coutel et co-réalisée avec Nuit Noire, studio de création sonore immersive.